Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer. Alors, comme vous le savez, l'un des membres de notre assemblée nous a quittés le 15 août dernier. Donc, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence en la mémoire de Vincent Théocchi. Donc, en toute logique, nous installons M. Pascal Gilles au poste de conseiller municipal. Nous lui souhaitons la bienvenue. Et d'ailleurs, je propose de le nommer pour sa première participation au conseil, secrétaire de séance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous en remercie. Je vous fais part des procurations que j'ai reçues. Christine Winkelmann a donné procuration à Sylvette Gilles. Émilie Lagier m'a donné procuration. Fanny Biscara a donné procuration à Elvire Théocchi. Laurent Arcuzé donne procuration à Marlène Thibault. Jean-Paul Montagnier donne procuration à Georges Point. Et Michel Payalonga donne procuration à René Sauvera. Je vous fais part aussi des divers remerciements que nous avons reçus. En particulier la famille Bonnet, qui a été très touchée par les marques de sympathie qui lui a été témoignée lors du décès de M. Roger Bonnet. Les familles Thomas Thévo, Michel, Madji et Gouret remercient bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, envoi de fleurs et autres marques d'affection, ont pris part à leur peine lors du décès de Madame Pierrette Michel. Colette et Daniel Etteny et leurs enfants ont été très touchés des marques de sympathie que nous leur avons témoignées à la suite de la disparition de Monsieur André Etteny. La famille Simonetti également a été très touchée par les marques d'affection témoignées lors du décès de Madame Paulette Simonetti. Mireille Arufa remercie tout le conseil municipal pour la petite aide que nous lui avons apportée lors du championnat de France à Thonon-les-Bains. L'amicale laïque de Camaret remercie la commune pour les lots que son association a offerts pour l'organisation de sa tombola pour la fête de fin d'année des écoles le vendredi 24 juin dernier. Voilà. Vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques, des observations, des demandes de rectification éventuelles ? Sinon, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Et nous passons à l'ordre du jour avec, en rapport numéro 1, budget principal 2016, décision modificative numéro 1, rapporteur Sylvette Gilles.
Conformément à l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé une décision modificative du budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 29 mars 2016 tout en maintenant l'équilibre budgétaire. La présente décision modificative tient compte des réalisations d'ores et déjà effectuées et de celles en cours. Vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 29 mars 2016 portant approbation du budget primitif de la commune de Camaret-sur-Aigue pour l'exercice 2016, vu les différentes réalisations effectuées en 2016 et celles en cours, vu l'avis de la Commission des finances réunie le 19 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 du budget principal de la commune, telle qu'annexée.
Merci. Je passe la parole à Monsieur le directeur général des services pour de plus amples explications.
Alors donc c'est une décision modificative qui est assez simple. En fonctionnement, donc il n'y a pas de mouvement en recette. Tous les mouvements sont internes à la ligne aux dépenses. Donc il y a une diminution de crédit de 15 000 euros sur la ligne intérêt moratoire et pénalité. C'était une provision qui avait été prévue au budget primitif, notamment dans la perspective d'une rupture de marché concernant la toiture de l'espace René Roussière, puisque un des co-traitants de l'entreprise retenue avait quitté le groupement, et puis on s'est aperçu que l'entreprise qui avait répondu n'était pas forcément dans les clous de notre cahier des charges. Donc on a préféré rompre le marché, les torts de l'entreprise étant avérés, nous n'avons pas eu à débourser d'intérêts moratoires et de pénalités de rupture de marché, donc nous pouvons les affecter à la ligne honoraire qui vient donc être crédité de 15 000 euros, notamment parce que nous avons un contentieux qui a vu le jour en août concernant la préemption de l'immeuble dit du Serpent Noir, puisque les acquéreurs évincés nous font un contentieux. Un jugement a été gagné en référé cet été et on attend l'affaire sur le fond. Donc, mais tout ça coûtera quelques frais d'avocat. Donc ce ne sera pas 15 000 euros, mais on reporte la totalité des intérêts moratoires sur la ligne honoraire. Il y a également, donc, en fonctionnement, toujours au moment du budget primitif, nous n'avions pas le chiffre exact du FPIC, du Fonds de péréquation pour les intercommunalités. Et en fait, nous avions budgété 79 000 euros. La contribution de Camaret s'élèvera à plus de 86 000 euros. Donc nous sommes obligés de créditer cette ligne de 7 296 euros que nous compensons par des diminutions sur les lignes fourniture de voirie, réparation autres bâtiments, réparation réseau que nous n'avons, sur lesquels nous avons encore assez de réserves pour terminer l'exercice. En section d'investissement, donc un peu plus de mouvement. En recette, on acte la notification de la subvention d'État DETR pour la création du logement d'accueil d'urgence derrière le Ravelin. On acte également une subvention pour de l'État toujours sur les deux nouvelles machines de verbalisation électronique pour 1 000 euros. La DETR s'élève à 80 500 euros, excusez-moi. La Fédération française de foot nous ayant notifié formellement sa subvention pour la salle polyvalente foot animation de 40 000 euros, nous l'inscrivons en recette. Et puis nous intégrons également l'emprunt qui a été contracté à l'occasion de l'acquisition justement de l'immeuble dit du Serpent Noir, 96 321 euros. En dépense, il y a une diminution de crédit, donc c'est justement le marché rénovation isolation de la toiture de René Roussière, donc 70 800 euros qui sont annulés en attente d'une nouvelle étude et d'un éventuel nouveau marché qui sera soumis aux arbitrages du budget 2017. Il y a un complément concernant l'aménagement du jardin du souvenir, cimetière communal. 1 000 euros avaient été crédités parce qu'on ne savait pas trop quel serait le niveau des prix de cet aménagement. En fait, ça sera 6 000 euros, donc on ajoute 5 000 euros. On crédite la ligne concernant la rénovation du centre médico-social, logement d'accueil d'urgence et de logements locatifs aidés des 80 500 euros de la DETR, ce qui doit mener la somme totale à 183 000 euros qui devrait être suffisante pour mener ces travaux. Ah bien. On ajoute 17 600 euros sur la mise en conformité électrique des bâtiments du motoball sur laquelle nous avions prévu au budget primitif 25 000 euros et le coût total sera de 42 600 euros, notamment du fait que dans ces travaux vont être ajoutés la création d'un compteur électrique suffisamment dimensionné pour le marché hebdomadaire qui va être donc, on va le voir tout à l'heure, qui va être pérennisé sur le parking du Motobol. On ajoute 8 521 euros sur la ligne programme réduction consommation d'énergie. En fait, c'est la ligne qui permet d'équilibrer la section d'investissement. Et puis surtout, nous créditons pour le réaménagement du terrain du motoball 140 000 euros et 37 000 euros pour le traitement des eaux pluviales sur ce même site, puisqu'un marché va être lancé. On le verra lors d'une délibération à venir dans quelques minutes. Voilà donc pour la décision modificative de septembre. Juste une précision, à partir de cette décision modificative, les documents budgétaires, comme la loi et les règlements nous le demandent depuis cet été, seront publiés sur le site internet de la commune après leur approbation par le conseil municipal.
Merci. Y a-t-il des questions ? Eh bien, dans ce cas, je mets aux voix. Qui est contre ? Donc, contre les élus Marlène Thibault, M. Mengui et Mme Seller. Qui s'abstient ? M. Point et Mme Sauvera. Qui est pour ? La majorité municipale. Merci. Rapport numéro 2, marché de Noël, révision des tarifs pour les emplacements, rapporteur Elvire Théoki.
Afin de permettre une meilleure organisation du marché de Noël, il est institué des tarifs pour les emplacements des forains par délibération numéro 2015, délib 069 du 29 septembre 2015. Les disciples d'Escoffier participent au marché de Noël uniquement pour organiser des ateliers pour le public. Aucun tarif ne leur sera donc appliqué. Enfin, les tarifs pour les professionnels des métiers de bouche et de gastronomie seront identiques aux autres exposants. Les tarifs proposés sont les suivants. Donc, ça sera par rapport aux emplacements. 2,20 m, tarif camarétois, 2 euros. Tarif extérieur, 10 euros. 4,40 m, tarif camarétois, 4 euros. Tarif extérieur, 15 euros. Le paiement sera demandé aux exposants au même moment que le dépôt du dossier d'inscription par chèque libellé à l'ordre du Trésor public. La caution de 50 euros, mise en place pour délibération en date du 29 juillet 2010, reste en vigueur dans les mêmes conditions. Vu l'avis de la Commission des finances en date du 19 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d'accepter les tarifs des emplacements pour le marché de Noël, pour les exposants classiques et les professionnels des métiers de bouche et de gastronomie comme suit. Donc je ne vais pas répéter, 2,20 m, 2 euros, 10 euros, 4,40 m, 4 euros et 15 euros.
Merci. Monsieur Mengui.
Alors, l'année dernière, donc, c'était payant pour la première année, je crois. Et quelle a été la recette qui a été perçue par la commune par rapport aux tarifs qui ont été mis en place ?
On ne peut pas vous la sortir comme ça.
Ouais. D'accord, non, mais j'aurais pu la demander à l'occasion de la commission des finances, mais ça, on a parlé d'autre chose, donc, entre autres. Donc voilà, nous on avait voté contre l'année dernière parce que c'est un marché qui était gratuit et que vous avez passé payant. Donc comme la délibération ne change pas fondamentalement, on votera contre également cette fois-ci.
Bien.
On avait eu cette discussion l'année dernière. Voilà. Donc vous nous dites la même chose et nous on vous répond la même.
Vous ne changez pas d'avis cette fois-ci, nous non plus. Alors je mets aux voix qui est contre, donc groupe Madame Thibault, qui s'abstient, adopté à la majorité. Je vous en remercie. Dossier numéro 3. Demande de subvention dans le cadre de la manifestation Camaret Fête le Vin, prévue le samedi 19 novembre 2016, rapporteur Elvire Théouki.
La commune de Camaret-sur-Aigle organise en partenariat avec l'UCAV et les jeunes agriculteurs de Vaucluse la troisième édition de la manifestation Camaret Fête le Vin. Les éditions 2014 et 2015 avaient rencontré un fort succès permettant une animation du cœur de ville et une mise en valeur de nos produits du terroir, notamment viticoles. Tout comme en 2015, cette fête sera couplée avec l'inauguration des illuminations de Noël. Dans cette perspective, il est proposé de solliciter une subvention auprès du Crédit Agricole, de Groupama et de la CCAOP au titre de l'animation intercommunale et de la mise en valeur d'une activité économique locale. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, considérant que cet événement a une portée intercommunale, une subvention à la CCAOP sera demandée. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 19 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le budget prévisionnel de la manifestation. Donc en dépenses, nous avons l'animation qui coûte 1 600 euros, les repas 2 500, la communication 500 euros et les divers 200 euros, soit un total de 4 800 euros. En recette, la commune de Camaret-sur-Aigle, 1 000 euros. Le sponsor Crédit Agricole et Groupama, 150 euros chacun. Et la vente des tickets repas, 2 500 euros. Subvention CCAOP, 1 000 euros. Donc le total, 4 800 euros. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de la CCAOP, du Crédit Agricole et de Groupama. Il est précisé que ces recettes seront encaissées sur le compte budgétaire 7478 sur émission d'un titre de recette.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Mengui ? Ah oui, vous aviez demandé en commission
le bilan. Oui, pour avoir, puisqu'on revote le même budget que l'année dernière, j'avais demandé à avoir un état des dépenses réelles et des recettes réelles.
Et je vais vous le dire immédiatement. Donc, le bilan 2015 de Camaret Fête le Vin, en dépenses 3 601,45 € et en recettes 4 252 €, tout rond. Voilà, ce qui nous fait un très léger excédent de 650,55 €. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Madame Seller. Adopté à la majorité. Je vous en remercie. Dossier numéro 4. Modification concernant le marché communal hebdomadaire. Rapporteur Elvire Théouki.
Par délibération du Conseil municipal en date du 16 juin 2016, le Conseil municipal a autorisé la modification du fonctionnement du marché municipal. Il a été décidé que le marché communal se tiendrait sur le parking du Motobol pour une période d'essai estivale à compter du mercredi 22 juin 2016 jusqu'au mercredi 21 septembre 2016. À l'issue de cette période, un bilan a été dressé avec les principaux intéressés. Au vu du succès de cette nouvelle implantation, quant à la fréquentation du public et l'arrivée de nouveaux exposants, il est proposé de fixer définitivement l'implantation définitive du marché hebdomadaire sur le parking du motobol. La création de marchés communaux de détail ainsi que toute modification les concernant relevant de la compétence du conseil municipal. Vu les articles L 2024-18 et 2024-19 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal en date du 18 septembre 2014, vu la délibération du Conseil municipal en date du 16 juin 2016, vu l'avis favorable du syndicat des commerçants des marchés de Provence, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser le déplacement définitif du marché communal hebdomadaire sur le parking du Motobol à compter du mercredi 28 septembre 2016. D'autoriser Monsieur le maire à définir par arrêté les modalités d'organisation du marché et le contenu du règlement intérieur y afférent, ainsi que de prendre toutes mesures utiles pour sa mise en place.
Merci. Monsieur Bengui.
Deux questions. Est-ce que on a l'avis, vous avez l'avis favorable du syndicat des commerçants et marchés de Provence. Qu'est-ce qu'il en est de, est-ce que vous avez demandé l'avis à l'UCAV?
Absolument.
Et donc ils sont favorables.
Nous avons saisi les deux organisations que vous avez mentionnées et l'avis a été favorable dans les deux cas.
Très bien. Et comment dire, combien y a-t-il à peu près de depuis la mise en place donc du marché sur le parking de Motoball, combien y a-t-il de forains qui viennent de façon régulière?
Bah écoutez, il y en a une bonne dizaine et depuis le changement, il y en a deux supplémentaires.
D'accord.
Merci. Et en tout cas, les forains sont tout à fait satisfaits de la modification du site, même si, comme vous le savez, nous avions préféré à l'origine maintenir le marché hebdomadaire dans le centre village, mais les problèmes en particulier les problèmes de visibilité, de stationnement, ont fait que les forains ont souhaité très vivement se mettre sur le parking du Motoball. Donc, nous avons fait cet essai qui s'avère absolument concluant. C'est la raison pour laquelle on demande de vous prononcer sur une implantation définitive sur le parking du Motoball. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, dans ce cas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe de Madame Thibault. Adopté à la majorité. Je vous en remercie. Dossier numéro 5. Réaménagement du stade de Motoball, plan de financement et demande de subvention, rapporteur Sylvette Gilles.
La commune a pour projet de réaménager le site du terrain de Motoball. L'actuel terrain et ses installations, éclairage, sonorisation, accès et parking, sont en effet dans un état de vétusté qui engendre un coût d'entretien important pour la commune, gêne la pratique normale de ce sport et le bon déroulement des compétitions. La réfection de l'éclairage du terrain, intervenant après la mise en conformité électrique des bâtiments, permettra de nettement réduire la consommation en énergie du site et s'inscrit donc dans une démarche de développement durable. Le Motoball fait partie du patrimoine historique de Camaret et contribue à la cohésion sociale et intergénérationnelle de la commune. Les matchs et manifestations liées à ce sport connaissent à chaque fois une grande affluence et un succès jamais démenti. Il apparaît donc essentiel d'offrir à cette activité un terrain et des installations à la hauteur de ses enjeux, tout en répondant aux normes en vigueur en matière de sécurité et d'accessibilité des installations recevant du public. Le projet, objet de la demande de subvention, prévoit un aménagement qui permettra de diversifier les utilisations du site, stationnement d'appoint, accueil de manifestations culturelles et sportives de grande ampleur. Les travaux permettront également de traiter la gestion des eaux pluviales du site, conformément au diagnostic hydraulique de la commune. Vu l'étude réalisée par le cabinet Aubry Conseil et Ingénierie, portant le montant estimatif des travaux pluriannuels à 230 554,55 € hors taxes et hors réseau, considérant qu'une demande de financement peut être présentée auprès du département de Vaucluse, considérant le coût non négligeable de ces travaux et les possibilités financières de la commune, Monsieur le maire propose de solliciter pour ce projet des subventions auprès du département de Vaucluse, au titre de l'avenant 2016 de la contractualisation 2012-2015, prorogée en 2016, et auprès de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au titre du Fonds régional d'aménagement du territoire, le FRAT. Considérant que la subvention au titre de la contractualisation, conformément à la délibération du Conseil général de Vaucluse en date du 16 décembre 2011, s'élève à 60% du montant total hors taxe des travaux, avec un plafond subventionnable établi à 124 666,67 € hors taxe, soit une subvention sollicitée de 74 800 €. Considérant que la subvention au titre du FRAT PACA s'élève à 30% du montant total hors taxe des travaux, avec un plafond de subvention ne pouvant dépasser 200 000 € hors taxe, soit une subvention sollicitée de 69 166 euros. Vu le plan de financement prévisionnel de l'opération, avec un montant des travaux hors taxes de 234 554 euros et 55 centimes, pour le département, le conseil départemental de Vaucluse, pour 32,40%, soit 74 800 euros. Pour la région PACA, pour 30%, 69 166 euros. Et pour la commune de Camaret, 37,50%, soit 86 588 euros et 55 centimes. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel exposé, de solliciter auprès du département de Vaucluse pour les travaux de réaménagement du terrain de motobol l'avenant 2016 de la contractualisation 2012-2015 prorogée pour un montant de 74 800 euros, de solliciter auprès de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre du FRAT une subvention de 69 166 euros et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Monsieur Point, prends le micro s'il te plaît, sinon tu ne seras pas enregistré.
Nous dire exactement ce que vous allez faire sur ce terrain. Vous allez le bétonner, là.
Voilà, effectivement, nous allons modifier le revêtement, qui est actuellement de la clapissette, pour le remplacer par un revêtement bitumé.
Vous avez pensé à l'écoulement des eaux pluviales en cas de forte pluie?
Tout à fait. D'ailleurs, l'ensemble du projet s'articule autour du changement de revêtement, mais aussi de l'installation d'un bassin de rétention des eaux pluviales qui va pouvoir drainer les eaux de pluie de tout le quartier, de tout le secteur.
Ça sera
couplé. Hein, donc, on ne pouvait effectivement pas mettre de bitume sans faire ce bassin qui, de toute façon, bitume ou pas bitume, était nécessaire. En cas de forte pluie, il s'agit d'un des points les plus bas de la commune, donc sujet à inondation en cas de gros orages, comme on en connaît malheureusement de plus en plus.
Et ce bassin, il se trouvera où?
Il se trouvera sur une partie du parking actuel. Intérieur.
Il y a déjà un petit ruisseau. Il y a déjà...
Oui, mais là, on va faire un tout autre dimensionnement. Voilà.
Merci.
Y a-t-il d'autres questions? Madame Thibault.
Merci. Moi, je pose la question concernant les demandes de subvention. La loi NOTRe a modifié l'organisation donc des compétences en termes de financement des projets d'aménagement des espaces publics. Et il est bien précisé que lorsque le département accorde un financement, la région ne peut plus intervenir. Alors, je voulais savoir si c'est dans le cadre surtout de la contractualisation. C'est une subvention de financement sur un projet. Et donc, la demande de subvention pour la région PACA, pour le FRAT, voilà, je voulais connaître exactement la finalité, l'articulation de ces deux demandes de financement pour arriver à un total, enfin, assez...
Écoutez, les deux collectivités ont été consultées, elles ont reçu le pré-projet de demande de subvention et aucune n'a relevé l'incompatibilité des deux subventions cumulées.
Oui, c'est passé en commission. Le dossier est passé en commission déjà.
Pour la région, ça passe en novembre. Pour le département, je crois qu'il y a une commission en octobre.
Mmh, d'accord. C'est simplement la question que je posais. Merci.
D'autres questions ? Eh bien, je mets aux voix pour un projet qui est très attendu quand même par beaucoup de nos concitoyens. Qui vote contre? Le groupe de Madame Thibault. Qui s'abstient? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Dossier numéro 6, participation aux frais de scolarité d'enfants de communes extérieures, rapporteur Jean-François Leroy.
Participation aux frais de scolarité d'enfants de communes extérieures. L'article L131-5 du Code de l'éducation dispose que chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde. Ainsi, lorsqu'une famille déménage, les enfants sont de droit scolarisés dans leur nouvelle commune de résidence. Toutefois, l'article L212-8 du Code de l'éducation affirme le principe d'un droit à la poursuite du cycle scolaire impliquant une obligation de financement de la commune de résidence. En effet, selon les dispositions de l'article L212-8, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencé ou poursuivi durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Il appartient à chaque commune de déterminer la contribution financière qui sera demandée à la commune de résidence pour la scolarité dans un établissement public camaretois d'un enfant dont les parents ou responsables légaux sont domiciliés dans cette commune. Le coût moyen par élève constaté dans les écoles publiques élémentaires de Camaret-sur-Aigle, école primaire Frédéric Mistral et les Amandiers, établi à partir des dépenses relevées dans le compte administratif N-1 de la commune, s'élève à 618,60 €. Le coût moyen par élève scolarisé en école maternelle est de 1 570,12 €. Vu le code général des collectivités territoriales, vu l'avis de la commission des finances réunie le 19 septembre 2016, il est demandé au conseil municipal de fixer à 618,60 € la participation au coût moyen de fonctionnement d'un élève scolarisé dans une école élémentaire de Camaret-sur-Aigle, de fixer à 1 570,12 € la participation au coût moyen de fonctionnement d'un élève scolarisé à l'école maternelle de Camaret-sur-Aigle, de dire que cette participation sera mise à la charge des communes de résidence d'enfants scolarisés dans un établissement camarétois en vertu des dispositions de l'article L212-8 du Code de l'éducation, de dire que les recettes correspondantes seront inscrites à l'article 74.748 de la section de fonctionnement du budget 2012.
Ça concerne combien d'enfants, monsieur Laurent ? Environ ?
Combien d'enfants ? Trois. Combien d'enfants étaient concernés ? Trois enfants.
Merci.
Bien, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 7, versement de la part communale de l'indemnité représentative de logement d'un instituteur non logé par la commune, rapporteur Jean-François Leroy.
Versement de la part communale de l'indemnité représentative d'un logement d'un instituteur non logé par la commune, vu l'article L212-9 du Code de l'éducation, en application du principe posé par les lois des 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1887, les communes sont tenues de fournir un logement aux instituteurs. À défaut, ces derniers bénéficient d'une indemnité représentative de logement, IRL. Vu l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2016, fixant pour l'année 2015 le montant de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs non logés à 2 297,45 €, considérant que l'indemnité de logement de base fixée à 2 297,45 € est prise en charge par l'État, et que les instituteurs bénéficiant de la majoration de 25% percevront au titre de l'année 2015 une indemnité de logement de 2 871,81 €, imposant une contribution communale annuelle donc de 63,81 € par instituteur bénéficiant de cette majoration. Considérant qu'il s'agit d'une dépense communale obligatoire, considérant que la commune de Camaret-sur-Aigle compte un instituteur ayant droit, vu le budget de la commune pour l'année 2016, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à procéder au mandatement de la part communale de l'indemnité représentative de logement aux instituteurs concernés pour un montant de 63,81 €. Les sommes correspondantes seront imputées à l'article budgétaire 6556 de la section de fonctionnement du budget principal de la commune.
Bien. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? adopté à l'unanimité. Désignation d'un nouveau délégué dans les organismes extérieurs. Conformément à l'article L5711-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal désigne les délégués de la commune devant siéger au comité du syndicat. Le choix de l'organe délibérant peut, depuis l'intervention de la loi démocratie de proximité, porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour être conseiller municipal, à l'exception des agents employés par le syndicat. Il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation d'un délégué suppléant conformément au statut du syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Aigouvaise. Monsieur Pascal Gilles, nouvellement installé au conseil municipal, est candidat en lieu et place de Vincent Théoki. Le tableau actualisé des membres serait titulaire Hervé Aurillac, Michel Lagarde, suppléant Fanny Biscara, Pascal Gilles. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention du groupe de Madame Thibault. Qui vote pour? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Alors, autre rapport. Désignation d'un délégué titulaire au syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Aigue. Vu que la commune de Camaret-sur-Aigue est adhérente au syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Aigue, vu la délibération numéro 2014 des LIB 019 du 17 avril 2014 désignant les délégués titulaires et suppléants du syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Aigue, vu l'installation au sein du conseil municipal de M. Pascal Gilles, conformément au statut du comité syndical, il est demandé au conseil municipal de procéder à la désignation d'un délégué titulaire pour siéger au comité syndical. Monsieur Pascal Gilles, nouvellement installé au sein du conseil municipal, est candidat en lieu et place de Vincent Théoki. Le tableau actualisé des membres serait titulaire Pascal Gilles, Hervé Aurillac, suppléant Elvire Théoki, Fanny Biscara. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe de Madame Thibault. Qui vote pour? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Alors nous arrivons à une série de quelques délibérations qui sont en fait les rapports d'activité divers et variés dont on ne fait que prendre acte. Alors je vais peut-être vous épargner la lecture fastidieuse de toutes les délibérations si vous n'y voyez pas d'inconvénient. En revanche, bien entendu, nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions éventuelles sur l'un ou l'autre de ces rapports d'activité. Voilà, les rapports qui sont ici, qui sont consultables en mairie. Sauf le dossier 14, voilà, on s'arrête au dossier 13. 9, 10, 11, 12, 13. Bien, s'il n'y a pas de questions, je passe donc au dossier effectivement 14. Communauté de communes Aigouvaise en Provence, transfert. Pardon ? Mais on ne fait que prendre acte, il n'y a pas de vote. Non, non. Ils sont là. Oui. En ce qui concerne l'eau ?
Oui, merci. Depuis que la IKEA sort, les factures ont explosé.
Oui.
Alors, là, je parle de c'est très subjectif, c'est une erreur. Mais, et alors que l'abonnement et les taxes et la participation aux eaux au musée qui a explosé.
Oui, c'est vrai.
Comment elle de. Je peux vous amener mes factures.
Oui, oui, mais je suis d'accord avec vous, je suis dans le même cas d'ailleurs. Oui, oui, mais sachez que nous avons soulevé le problème. Pour l'instant, nous n'avons pas obtenu de réponse satisfaisante de la part du prestataire, qui d'ailleurs sera renouvelé dans quelques temps. Absolument, je confirme. Tout à fait. Voilà, je passe donc au dossier numéro 14. Communauté de communes Aigouvaise en Provence, transfert de nouvelles compétences obligatoires et optionnelles, modification des statuts. Donc il y a un nouveau dossier qui a été mis dans vos pochettes. Conformément aux articles L5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement les articles L5211-17, adjonction ou retrait de compétences, considérant que chaque modification apportée au statut de la communauté de communes Aigouvaise-en-Provence doit faire l'objet d'une délibération du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres de l'EPCI, vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment l'article 64, considérant que la loi suivisée impose aux communautés de communes d'exercer de plein droit, en lieu et place des communes, de nouvelles compétences obligatoires. Considérant que la loi suivisée impose aux communautés de communes de choisir au moins 3 compétences optionnelles parmi les 9 fixées par la loi, vu la délibération du 30 juin 2016 du Conseil de communauté de la communauté Aigouvaise en Provence, relative à l'approbation du transfert de nouvelles compétences obligatoires et optionnelles, et modifiant par conséquent les statuts de la communauté, considérant la nécessité pour les communes membres d'émettre un avis pour toute modification relative au statut, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'exercice de plein droit par la communauté de communes, en plus de ses compétences actuelles, des compétences obligatoires suivantes. Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, de refuser l'exercice de plein droit par la communauté de communes de la compétence obligatoire suivante, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, d'approuver le transfert des compétences optionnelles suivantes, protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, politique du logement et du cadre de vie. Il est précisé que ces nouvelles compétences seront exercées par la communauté de communes à compter du 1er janvier 2017, à l'exception de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui prendra effet le 1er janvier 2018. Madame Thibault.
Oui, donc c'est un nouveau rapport, c'est un rapport de présentation qui a été modifié par rapport au rapport de présentation que nous avons voté avec les personnes présentes lors du conseil de communauté le 30 juin.
Oui.
Et sur celui-ci, vous notez, alors que ça fait partie des compétences obligatoires, de refuser l'exercice de plein droit par la communauté de communes de la compétence obligatoire suivante, donc le plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale. Donc, quelle est la valeur de cette délibération par rapport au transfert de compétences si on refuse le PLU intercommunal, quelle est la valeur? Et l'autre question, je voulais savoir quelles étaient les communes qui avaient approuvé le transfert de compétences donc tel que présenté lors du dernier conseil de communauté, et pourquoi le fait de refuser donc le plan local d'urbanisme intercommunal.
Bon, vos deux questions, c'est à peu près la même, hein, je vais faire une réponse, voilà. Donc effectivement, il y a eu une délibération qui a été approuvée au conseil de communauté, c'est effectivement le 30 juin dernier. Depuis, nous avons eu la confirmation notamment par la commune de Piolenc, que celle-ci allait s'y opposer et faire jouer la minorité de blocage. Donc si la plupart des communes, membres de la communauté de communes à Gouvèze-en-Provence, ont approuvé telle quelle la modification des statuts, Piolenc a voté contre déjà, et Sérignan, à ma connaissance, s'apprête à faire de même. Donc de toute façon, voilà, on est en plein dans la minorité de blocage. C'est vrai que bon, c'est un transfert qui de toute façon n'enchante pas tout le monde, hein, qui comporte beaucoup d'inconvénients. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Donc en ce qui nous concerne la commune de Camaret, nous décidons en effet d'emboîter le pas à Piolenc et à Sérignan.
De refuser cette compétence, quelle autre compétence obligatoire va être choisie?
Écoutez, nous allons en discuter. Là, ce que je vous dis est relativement tout neuf. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de discuter de la nouvelle, du nouveau transfert de compétences avec les autres communes toutes réunies.
Enfin voilà, en position, effectivement, j'avais voté, étant représentante donc au sein de la communauté de communes, j'avais voté pour le transfert de compétences. Vu là maintenant la modification et le fait de refuser, donc je pense que nous allons nous abstenir par rapport à cette délibération et attendre la suite proposée.
C'est votre choix. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe de Madame Thibault. Qui est pour? Adopté à la majorité. Je vous en remercie. Dossier numéro 15. Attribution de logement de fonction, rapporteur Antonio Muga.
Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logements, vu l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logements accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte pour l'application des articles R21-24-72 et R41-21-3-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, CG3P. Vu la délibération en date du 26 mai 2016 fixant le tableau des effectifs des emplois communaux, vu l'avis du comité technique paritaire en date du 16 septembre 2016, il appartient au conseil municipal, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer cette liste comme suit. Pour la fonction de gardien de l'espace René Roussière et du complexe sportif 6 allées des sports assurées par un adjoint technique territorial principal de première classe, un logement de fonction concédé pour nécessité absolue de service à titre gratuit, 6 allées des sports à Camaret-sur-Aigue, parcelle cadastrée section AK numéro 234. Il s'agit d'une maison d'habitation d'une surface de 99 mètres carrés, 4 pièces avec garage et terrain de 100 mètres carrés et d'une valeur locative estimée à 800 euros par mois. Conformément à l'article R2124-64 du CG3P, et afin d'assurer la sécurité, l'entretien et le bon fonctionnement des installations de l'espace René Roussière et du complexe sportif, il est en effet nécessaire que l'agent soit logé à proximité immédiate du lieu d'exercice de ses missions qui exige une proximité et une disponibilité permettant une réactivité efficace dans ce service. Pour pour l'astreinte technique des lundis, mardis, mercredis et jeudi soir de 17h à 8h, assurée par un agent des services techniques adjoint technique de deuxième classe, afin d'assurer la continuité du service public, il est nécessaire d'attribuer à ce dernier un logement de fonction avec convention d'occupation précaire. Le logement ainsi mis à disposition est situé 21 avenue Fernand Gonnet à Camaret-sur-Aigle, parcelle cadastrée section AW numéro 90, 144 mètres carrés. Il s'agit d'une maison de ville, 4 pièces, surface habitable de 120 mètres carrés environ, avec cour et garage. L'occupant prendra à sa charge une redevance représentant 60% de la valeur locative du logement, 800 euros par mois, soit 480 euros mensuels, ainsi que l'intégralité des charges. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise à disposition gratuite d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service dans les conditions définies ci-dessus, d'approuver l'attribution d'un logement de fonction avec convention d'occupation précaire dans les conditions définies ci-dessus, d'autoriser M. le maire à signer tout document concernant ces dossiers.
Merci. Y a-t-il des questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 16, création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, service collectivité, entretien, service technique, service enfance, jeunesse, rapporteur Antonio Muga.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, considérant que ces agents exerceront à titre principal les fonctions d'adjoint technique territorial de deuxième classe et d'adjoint d'animation territoriale de deuxième classe. Oui, la proposition de M. le maire de créer ces postes d'adjoint technique territorial de deuxième classe et d'adjoint technique territorial de deuxième classe. Il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer les postes suivants pour un accroissement temporaire d'activité. Un poste d'adjoint technique territorial de deuxième classe à temps complet pour le service collectivité entretien. Un poste d'adjoint technique territorial de deuxième classe à temps complet pour le service technique. Et un poste d'adjoint d'animation territoriale de deuxième classe à temps complet pour le service enfance-jeunesse. D'imputer ces sommes afférentes à cette dépense au chapitre 012 du budget principal de la commune.
Merci. Madame Thibault. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, parce que sinon vous ne serez pas audible.
Oh oui. Non, mais là, simplement la question, il s'agit de postes en remplacement de personnes en arrêt maladie.
On a une régularisation. Il y a en fait une régularisation concernant un agent. Donc c'est l'adjoint d'animation qui était en contrat saisonnier. Maintenant, on la positionne en accroissement temporaire d'activité. Donc on regarde la loi, donc on se met en conformité. Concernant le poste d'adjoint technique d'entretien, donc nous avons une personne qui a été recrutée en remplacement d'un agent qui a été recruté par la collectivité, mais qui est en contrat en CAE. Il a eu l'opportunité de postuler auprès d'une société privée, donc on a cessé son contrat, donc sur sa demande, on a recruté une autre personne, et de plus on a un nouvel agent service technique qui s'est blessé, ce qui nous motive cette embauche. Et concernant l'agent d'entretien, c'est une régularisation de son statut, tout simplement. Voilà.
Très bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Y a-t-il des questions diverses? Madame Sauvera, dans le micro.
C'est-à-dire,
les charges, c'est pas la charge de l'agent.
C'est indiqué.
Bon, mais je ne sais pas, je vais le redire. Bon, parce que je l'avais oublié en le disant.
Bien.
Non, je ne vois pas.
Non, pour le premier, non, effectivement, il est bien présent pour le second.
Voilà, donc les charges, tout ce qui est électricité, eau, chauffage, place d'habitation,
sont à la charge de l'agent.
Voilà, il n'y a que le loyer qui est soit gratuit, soit
voilà. C'est ça.
Le premier point, c'est une régule de la situation en face.
Oui. Et le deuxième logement, qui c'est qui l'occupe actuellement?
Il sera occupé par monsieur Olivier Fache, agent du service technique.
Et vous libérez la
place? Voilà, tout à fait. Il y a des travaux à faire d'abord. Hein. Donc, nous verrons. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vous annonce... Monsieur Mingui, vous avez une question diverse?
Non.
D'accord. Je vous annonce la date du prochain conseil municipal, c'est le 20 octobre prochain. Jeudi 20 octobre prochain. Eh bien, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée.